Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Renaud, en cette sixième émission, nous sommes restés la fois dernière sur un des habituels suspense qui te caractérise. Hein. Tu aimes bien laisser planer l'interrogation jusqu'à la semaine d'après. Et donc, en toute fin d'émission 5, tu nous avais expliqué fort habilement pourquoi l'excès de masse monétaire pouvait créer de l'inflation et qu'une des politiques monétaires visant à diminuer l'inflation passer justement par la diminution de cette masse monétaire. L'outil utilisé pour cela, un des outils, c'est le taux directeur de la Banque Centrale Européenne qui détermine les conditions d'attribution des prêts à des particuliers et donc la création de la masse monétaire qui passe par l'obtention de ces prêts. Ma question était la suivante. Comment se fait-il dans ce cas que nous continuions à recevoir des prêts des banques dans cette période de forte inflation? Et surtout, pourquoi ai-je entendu récemment aux informations que les conditions d'obtention des prêts immobiliers en particulier allaient être assouplies et qu'elles allaient toucher davantage de candidats auprès des banques?
C'est une excellente question, Eric, et cela montre toute la complexité des mécanismes économiques et parfois la quadrature du cercle dans lequel se trouvent les responsables politiques. Donc, je ne retire rien à ce que j'ai dit la semaine dernière, à savoir qu'en ce moment, la Banque centrale, elle durcit les conditions dans lesquelles elle accepte de prêter sa monnaie, la monnaie banque centrale, aux banques, ce qui automatiquement entraîne pour les banques une désincitation, ou en tout cas une forte incitation à un peu moins prêter. Donc ça, c'est vrai. Et toute chose égale par ailleurs, le mécanisme, il est là et il est incontournable. Dans le même temps, et c'est là où les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît, deux phénomènes se passent en même temps. Le premier, c'est que si l'objectif de la Banque centrale, c'est de lutter contre l'inflation, et si cet objectif passe par le fait que les agents économiques ne peuvent plus emprunter auprès des banques, ça va être catastrophique pour l'activité économique. Parce que si les consommateurs ne peuvent plus emprunter pour acheter une voiture ou ne peuvent plus emprunter pour acheter un appartement ou une maison, on va avoir le marché de l'immobilier, le marché automobile qui vont s'effondrer avec à la clé, eh bien, un effet récessif, des emplois en moins, de l'activité économique en moins. Donc, l'effet secondaire, il est quand même important. Alors, pour éviter cet effet secondaire, on a dans le même temps un gouvernement, le gouvernement français, qui essaye, avec les moyens qui sont les siens, de motiver les banques à dire « Non, mais continuez à prêter, parce que lutter contre l'inflation, c'est très bien, et il faut le faire, mais dans le même temps, il faut pas que ça se traduise par une crise économique généralisée. » Donc, la première chose, c'est que les banques, intrinsèquement, on ne leur interdit pas de continuer à prêter.
D'accord. Alors, avec tout ce mécanisme que tu expliques, Renaud, on est dans une espèce de cercle vicieux et tu parles de la quadrature du cercle et je pense que c'est une bonne image. À l'inverse, il a quand même existé, me semble-t-il, des cercles vertueux qui permettent à la fois une croissance économique, même si elle est faible, tout en conservant la possibilité de maîtriser l'inflation. Donc, comment est-ce que c'est possible, ça?
Alors, on n'oubliera pas que j'ai un deuxième élément à mettre en avant qui est très important pour... Donc, ça, on le laisse de
voilà,
côté.
Je suis désolé de toutes ces parenthèses en fait, que je t'impose.
Non, mais c'est pas très grave. C'est même intéressant parce qu'effectivement, c'est ça qui est passionnant en économie. C'est qu'en économie, dès que vous commencez à dérouler, à tirer un fil, forcément, il y a tout le reste qui vient avec, nécessairement, puisque tout est lié à tout. Donc, forcément qu'on a cette curiosité tout de suite qui nous porte à d'autres choses. Et puis là, c'est pas autre chose. Effectivement, tu m'expliques que moi, je suis en train de te dire que quand il y a de l'inflation, si on veut lutter contre, ça va entraîner de la récession. Et tu m'expliques très justement que pourtant, on a eu des périodes dans l'histoire économique où à la fois on a eu croissance et pas d'inflation. Donc il n'y a pas d'antinomie entre les deux. En fait, pour répondre à ta remarque très pertinente, c'est le problème de la causalité en économie. C'est-à-dire que quand au départ, on n'a pas d'inflation et qu'on a une phase de croissance, parce que les agents économiques consomment massivement, parce que il y a une innovation majeure qui vient faire réaliser des gains de productivité dans l'économie, cette croissance, donc qui est à l'origine, en fait, du phénomène que l'on va observer, cette croissance, elle peut se faire sans inflation. Si jamais la hausse de la demande qui est générée par la croissance n'est pas supérieure à la hausse de la production qui est au cœur de la croissance. Donc, lorsqu'il y a croissance, il peut ne pas y avoir inflation. Mais dans le même temps, quand on est dans le cas inverse, qu'on démarre par une situation inflationniste, la seule façon, a priori, en tout cas, une des façons essentielles de lutter contre cette inflation, c'est de réduire la demande. Et là, si vous réduisez la demande, automatiquement, ça va avoir un effet récessif. Donc, quand au départ, il y a de l'inflation, c'est extrêmement difficile d'arriver à une situation sans inflation, sans que cela ne passe par un épisode récessif. D'où, quand on a inflation au départ, il est extrêmement difficile ensuite d'entraîner croissance sans inflation.
Donc tout ça,
il y aura forcément un moment de transition.
Tout ça est très contextuel en fait. Et c'est la confiance, j'imagine, qui règne sur les marchés qui fait qu'on a une croissance, l'absence d'inflation, parce que ça doit être un facteur secondaire, ça détermine quand même beaucoup le comportement des agents économiques.
Entièrement d'accord. Et c'est ce qui montre aussi que la science économique reste une science extrêmement contextualisée. On a peu de lois universelles en économie, parce que ce qui fonctionne à un moment dans un pays donné, dans un contexte économique et social donné, eh bien, avec les mêmes ingrédients, on aura un résultat complètement opposé dans un autre contexte. Donc oui, il est possible d'avoir croissance sans inflation, mais là, je dis que dans le cas actuel, lutter contre l'inflation, ça risque de se faire par de la récession. C'est parce que le contexte n'est pas le même.
D'accord. Alors Renaud, tu avais un deuxième point.
Alors, oui, bravo Eric, je vois que tu me suis. Donc, la deuxième chose qui peut expliquer qu'on dessert actuellement les conditions d'accès aux prêts, c'est que, et là on va mettre le point sur quelque chose de très important et qui est pas forcément évident à comprendre, mais qui est essentiel si on veut ensuite saisir tous les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. C'est que lorsque l'on emprunte, on emprunte à un taux d'intérêt. Alors je ne sais pas, moi je connais pas les taux d'intérêt actuellement, je crois qu'ils sont un peu remontés. Donc oui. Par exemple, si on veut emprunter pour un achat immobilier, je crois qu'aujourd'hui on est plus aux alentours de 3%. Et on était plus à 1,5%
voilà,
il y a un an,
ouais,
c'est ça?
À peu près. C'est à peu près ça.
Oui, c'est dans ces eaux-là. Voilà. Voilà. Donc on peut se dire que lorsque l'on empruntait à 1,5% et que dorénavant on emprunte à 3%, eh bien en tant qu'emprunteur, on est perdant. Ça peut sembler assez évident, puisqu'on va devoir rembourser une somme qui est plus importante que celle qu'on aurait remboursée si on n'avait pas eu la hausse du taux.
Absolument.
Mais en fait, c'est pas certain. C'est pas certain pourquoi, Eric ?
Tout simplement parce que ce taux a beau être plus élevé, si on est dans un contexte où l'inflation est forte, eh bien finalement on peut réussir tout à fait à rétablir l'équilibre, voire même à gagner par rapport au contexte précédent.
C'est exactement ça. Et c'est ce qui peut paraître pas intuitif à comprendre parfois, mais qui pourtant l'est, c'est que quand tu empruntes 100 euros à 2% d'intérêt, dans un an tu devras avoir remboursé 102 euros. Donc, imaginons que dans l'année l'inflation soit elle aussi à 2%. Cela signifie que les 102 euros que tu rembourseras dans un an, en fait, ont exactement la même valeur que les 100 euros que tu rembourses aujourd'hui, que tu empruntes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le pouvoir d'achat de ces 102 euros dans une année du fait de l'inflation est exactement le même que le pouvoir d'achat des 100 euros que tu as emprunté. Donc, dans ce cas-là, tu ne t'es ni appauvri, ni enrichi en termes de pouvoir d'achat d'avoir emprunté. T'as emprunté une somme qui avait un certain pouvoir d'achat, t'as remboursé exactement la même somme.
Oui, et d'ailleurs, les gens de notre génération se souviendront certainement qu'à l'époque de nos parents, quand on contractait un prêt immobilier, on avait souvent des taux progressifs. Alors, les taux étaient déjà élevés de base puisqu'on était dans un contexte de forte inflation, mais également en prévision d'une augmentation de cette inflation, les banques appliquaient des taux progressifs, c'est-à-dire qu'on acceptait que le taux augmente au fur et à mesure du remboursement du prêt. Ce qui était une course sans fin et qui pouvait provoquer de très mauvaises surprises.
Oui. Alors là, tu nous parles de notre génération, Eric. Je pense que tu parles de ta génération.
Non,
parce que moi, je n'ai pas souvenir d'être progressif.
Bon, bon. Ben écoute, je peux. Voilà. Alors pour une fois, je vais t'apprendre quelque chose, Renaud. Et là, c'est vache cette remarque que tu me fais. Je vais t'apprendre quelque chose malgré tout, malgré bien que ma dignité soit froissée. Je t'informe que dans les années 70 et jusqu'à l'aube des années 80, les banques pratiquaient des taux progressifs, c'est-à-dire des taux qui étaient soit indexés sur le taux d'inflation, soit automatiquement incrémentés chaque année ou chaque 5 ans, dans le but de prévoir l'augmentation des prix.
Ouais, non. Alors Eric, je te rassure, je le savais, c'était une petite saillie drôlatique de ma part pour te faire réagir. Et d'ailleurs, sache qu'actuellement, on commence à revenir à des taux variables. Parce que justement, aujourd'hui, tu as des banques qui n'acceptent de prêter à certains emprunteurs que à condition que les taux soient variables. Parce que justement, elles anticipent que les taux vont continuer à augmenter et elles veulent pas être coincées par un taux fixe sur 10, 15 ou 20 ans.
Très bien. Alors, merci pour ce complément d'information, Renaud. Et sache que ma vengeance sera terrible.
Je te connais, Eric, et je sais qu'elle sera empreinte de beaucoup de bienveillance. Écoute, j'attends, je me prépare. Mais bon, bref, revenons donc à notre point de départ. Donc, il se trouve que lorsque l'on empruntait à 1,5% et que l'inflation était à 0,5%, eh bien, on subissait ce que l'on appelle un taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt nominal, celui qui est indiqué sur notre contrat de prêt, moins le taux d'inflation. Donc 1,5 moins 0,5, ça faisait un taux d'intérêt réel de plus 1%. Or aujourd'hui, même quand on emprunte à 3%, avec une inflation à 6%, eh bien au moins sur le court terme, là au moins sur les débuts du prêt, eh bien on a en fait un taux d'intérêt réel négatif. C'est-à-dire que, aussi étonnant que cela puisse paraître, même si on rembourse une somme qui est plus élevée que celle qu'on a empruntée, elle a une valeur moindre. Et comme dans le même temps, alors, pas complètement. En particulier, je sais que je parle, Eric, à quelqu'un qui est fonctionnaire, donc il sera le premier à bien comprendre ce que je veux dire par là. Mais dans le même temps, on peut espérer que quand l'inflation est à 6%, eh bien, les salaires augmentent
proportionnellement,
plus ou moins proportionnellement à cette inflation. Mmh. Voilà. Alors, pas pour tout le monde, et je crois, Eric, en tant que fonctionnaire, tu es bien placé pour le savoir que ton salaire n'a pas augmenté de 6% cette année.
Oui, je crois qu'on est conscient des mêmes réalités, Renaud.
Ouais, je crois aussi. Mais et nous ne sommes pas les seuls. Loin de là, il y a énormément de salariés dans le secteur privé qui subissent aussi des augmentations de salaire qui sont bien moindres que l'inflation, voire même aucune augmentation de salaire.
C'est d'ailleurs une forte revendication actuelle dans le monde syndical, salarial.
Oui, alors on en rediscutera, mais je ne sais pas si tu sais, en fait, pendant longtemps en France, il y avait une loi qu'on appelait la loi de l'indexation des salaires sur les prix. C'est-à-dire que les salaires devaient, chaque année, c'était la loi qui l'imposait. Les entreprises avaient l'obligation d'augmenter les salaires au moins du niveau de l'inflation. Et il se trouve que une année, on a mis fin, on a mis ce qu'on appelle la désindexation des salaires sur les prix. Alors Eric, comme je crois que ça concerne ta génération, peut-être que
ah non, attention à ce que tu vas dire. non Renaud, je crois que certainement à l'époque tu étais déjà très au fait de la chose économique et donc tu as certainement plus fait attention que moi à ce qui s'y passait parce que tu es...
Eh ben, en fait non. Bon. J'étais encore trop jeune.
Ah oui.
J'étais
encore jeune. Dans les années 40, c'est ça.
Non, bien après. Non, c'était en 1982. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est sous le gouvernement de Pierre Mauroy, gouvernement socialiste qui a posteriori, on va vraiment dire être le gouvernement qui aura mis en place la politique la plus de gauche, entre guillemets, que les gouvernements socialistes aient mis en place depuis 81. Eh bien pourtant, c'est sous ce gouvernement-là qu'on a fait passer une loi de la désindexation des salaires sur les prix. Et ce qui fait que depuis, il est tout à fait légal et possible que des salariés soient moins augmentés que le niveau de l'inflation.
Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle, justement, dans cette politique dite de gauche à l'époque, cette décision a été prise? Est-ce que c'était sous l'influence de la politique libérale mise en place par Thatcher et Reagan dans leurs pays respectifs?
La réponse est oui. Parce que effectivement, nous avions un contexte d'inflation forte et à un moment donné, le gouvernement s'est dit, on a mis en place des mesures dites de gauche, mais en même temps, vu le contexte inflationniste et la concurrence des pays plus libéraux, international, on ne peut pas continuer à avoir une inflation comme ça. Donc, à un moment, il faut casser le cercle vicieux qui fait que quand il y a de l'inflation, les salaires augmentent. Et quand les salaires augmentent, les entreprises augmentent leurs prix, ce qui recrée à son tour de l'inflation. Et donc, pour casser ce cercle vicieux, eh bien, il a été décidé de permettre aux entreprises de moins augmenter les salariés qu'auparavant pour réaliser, entre guillemets, l'atterrissage en douceur, pour faire en sorte que l'écart chaque année d'augmentation des salaires et des prix permette de voir l'inflation progressivement diminuer. Donc revenons à nos taux d'intérêt réels. Alors évidemment, c'est pas durable. Aujourd'hui, quand vous empruntez à taux fixe à 3%, l'inflation est à 6%. Donc vous pouvez vous dire, en tant qu'emprunteur, je suis gagnant puisque la valeur de ce que je vais rembourser va être moins forte. C'est vrai, mais si vous empruntez sur 25 ans, a priori, la probabilité est quand même faible qu'on ait 25 ans d'inflation à 6%. Donc de toute façon, un jour ou l'autre, vous serez rattrapé par le taux que vous avez emprunté au départ. Sauf si vous faites des taux variables. Alors les taux variables, c'est très compliqué. On peut être gagnant comme on peut être perdant. Bien évidemment que si les taux continuent à augmenter, on va être perdant. Mais on a du mal à imaginer qu'à long terme, ils restent aussi hauts les taux d'intérêt. Donc on peut légitimement penser que dans quelques années, ils devraient rebaisser. Mais bon, après, c'est à chacun de se faire ses propres conjectures sur l'avenir. L'émission n'est pas là pour vous donner des conseils financiers de prêt ou d'emprunt. Donc, mais voilà pourquoi... Dans le même temps, on n'assiste pas à une disparition des prêts. Donc, c'était pour répondre à ta question, Eric, au départ. Oui. La Banque centrale, elle ferme un peu le robinet, mais pas complètement. Pas complètement, parce que sinon, on aura une crise économique comme on en a rarement eu. C'est pas non plus l'objectif de la Banque centrale européenne. Et on a beau durcir les conditions de financement des prêts en augmentant les taux, eh bien finalement cela est peu de choses par rapport à l'avantage qu'il y a aujourd'hui d'emprunter avec des taux d'inflation qui sont ce qu'ils sont. Donc aussi étonnant que ça puisse paraître, même si les taux d'intérêt augmentent, il est plutôt avantageux aujourd'hui d'emprunter. Enfin, il est avantageux d'emprunter si jamais effectivement on a devant soi un avenir qui nous semble plutôt stable, hein, qu'on risque pas de perdre son emploi dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an.
Mais ça dépend aussi de l'avenir économique du pays. Si l'inflation s'arrête d'un seul coup, là, pour le coup, on est plutôt perdant dans l'histoire.
Oui, c'est exactement. C'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on va être gagnant sur le court terme là d'avoir une inflation forte, mais la probabilité qu'on garde ces taux d'inflation élevés longtemps est quand même très très faible. Donc à un moment ou à un autre, on va être rattrapé par le fait qu'on a emprunté à des taux plus élevés. Mais donc, voilà les explications que je pouvais essayer de mettre en avant pour expliquer pourquoi, alors même que la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt, eh bien dans le même temps, on a mis en place un système pour faire en sorte qu'on permette à un plus grand nombre d'agents économiques de pouvoir emprunter, qu'on a un peu, non pas durci, mais je vais pas dire ramolli, le terme n'est pas très joli, mais je n'en trouve pas d'autre, on a dédurci.
Assoupli.
Merci voilà, beaucoup, Eric. On a assoupli, effectivement, les termes de...
Voilà, je te ferai un bécherel pour Noël, Renaud. Alors, malheureusement, l'émission touche bientôt à sa fin. Donc, du coup, la question traditionnelle est la suivante. De quoi allons-nous parler la semaine prochaine ?
On va développer les conséquences de l'inflation. On va voir que l'inflation a à la fois des conséquences négatives, elles semblent assez évidentes, les conséquences négatives, on va pouvoir passer rapidement, mais elle a aussi potentiellement des conséquences positives, aussi étonnant que cela puisse paraître, et on va essayer de peser la balance entre les avantages et les inconvénients de cette situation.
Tu veux dire des conséquences positives autres que celles qu'on vient de voir lorsqu'on prend un prêt immobilier, par exemple ?
Oui, mais malgré tout, on va en reparler quand même parce que nous allons voir les conséquences indirectes que cela va ensuite avoir sur l'activité et l'emploi.
Très bien. Eh bien, écoute, rendez-vous est pris avec les auditeurs. Et donc, je te dis à la semaine prochaine sur RVM.
À la semaine prochaine, Eric. Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulsien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Eric Carlier et Renaud Chartois.